Alors, on est dans le cours, bonjour Patrice, on est dans le cours survol de la Bible, la portion de l'Ancien Testament, et ce matin, nous sommes dans le prophète Michée. On va survoler le livre prophétique de Michée, un super beau livre prophétique, vraiment, superbe, touchant. Alors, on va se courber ensemble dans un mot de prière, si vous le voulez bien. Père éternel, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Ta parole me fait du bien. Dans ta parole, Seigneur, je vois ton cœur, je vois ton amour pour moi, je vois, Seigneur, ton désir de sainteté, je vois, Seigneur, ton intransigeance avec le péché. Je vois ta compassion, ta patience, ta grâce, Seigneur. Et je vois tout cela, Seigneur, dans ce beau livre de Michée. Seigneur, je vois aussi apparaître le Messie qui s'en vient à l'époque, Seigneur. Et cela m'amène à apprécier encore davantage ce que tu as fait, Seigneur Jésus, à la croix. Je te prie, Père, de nous bénir ensemble ce matin, de toucher nos cœurs, de nous édifier, de nous rapprocher de toi à travers ce beau livre, Seigneur. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Alors, Michée, sans les notes, là. À quoi ça vous fait penser, Michée? Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? À part la petite chanson québécoise. Ah, oh, c'est correct. Je ne la chanterai pas ce matin. OK. Michée, non? Prophétie, messianique, naissance du Messie, Bethléem, non? C'est dans Michée qu'on trouve ça. D'accord. Alors, Michée, on est dans la portion des petits prophètes. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Si on parle de petits prophètes, ce n'est pas qu'ils étaient de petits prophètes, mais que c'est dans la section des livres prophétiques plus courts. Ces livres-là étaient appelés aussi les 12. Alors, dans la version hébraïque de l'Ancien Testament, ces 12 petits prophètes-là étaient regroupés dans un livre. On l'appelait le livre des 12, d'accord? Alors, ça ne reflète que la longueur de ces livres prophétiques-là. Le nom Michée signifie lui-même « qui est comparable ou qui est semblable à Yahvé, à l'Éternel ». Et donc, ça reflète certainement l'appel qu'il y avait sur la vie de cet homme-là. Plus haut. Ça va? Alors, c'est ça son nom. Son nom signifie « qui est comparable à l'Éternel? Qui est comparable à Yahvé? » Et certainement que ses parents avaient choisi ce nom-là parce qu'ils l'avaient à cœur, mais en même temps, ils ne savaient certainement pas qu'il était appelé à un ministère où il allait parler de l'Éternel. Il allait parler à un peuple qui s'est éloigné de l'Éternel pour aller vers d'autres dieux. Et donc, son nom aussi a un sens symbolique assez puissant puisqu'il va parler de l'Éternel en comparaison aux autres dieux. Certains appellent Michée le prophète des pauvres parce qu'il était près de... D'abord, il est né dans une région qui était davantage agricole et donc il était près de ces gens-là et il prend leur défense. Il va s'adresser aux chefs qui abusent des classes. On dit pauvres, là, mais je veux dire... C'était pas des gens qui étaient sans propriété. Alors, pour notre époque, ce serait plutôt la classe moyenne. C'est comme s'il était le défenseur de la classe moyenne par rapport aux riches, d'accord? Pour prendre une bonne comparaison, là, il est pas en train de défendre des gens qui n'ont pas de terre, des choses comme ça. C'est des gens qui avaient un métier, qui avaient une terre. Mais il prend leur défense par rapport à, par opposition aux chefs qui sont en train d'abuser, qui sont en train d'usurper, qui sont en train de s'enrichir vraiment, par abus sur le dos de ceux qui sont moins puissants qu'eux. Et donc, parfois, il a été appelé le prophète des démunis. Pardon? J'embarquerai pas là-dedans. Il y avait des valeurs de loin supérieures à ce parti-là, à bien des égards, n'est-ce pas? Il y avait peut-être des points comparables. Mais il y avait d'autres motivations. Merci Stéphane pour cette digression. Michée était un contemporain du prophète Ésaïe. Son livre ressemble un petit peu aussi au livre d'Ésaïe à certains égards. Il va s'adresser aux deux royaumes, d'accord? Au royaume du nord, au royaume du sud. Son ministère va s'exercer pendant l'ère assyrienne. Et donc, il va s'adresser aux deux royaumes. Il va les appeler, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, Jacob, Israël ou Jérusalem, Juda, d'accord? Pour faire la distinction entre les deux royaumes. Donc, il s'adresse aux deux. Et puis, définitivement, les prophéties de Michée ont une portée messianique. Lorsqu'on lit les promesses de bénédiction qui sont à venir, plusieurs d'entre elles ne peuvent s'accomplir qu'à la venue du Messie. Et de fait, elles se sont accomplies, plusieurs d'entre elles aussi. On va le voir tout à l'heure dans Romains, dans Matthieu, tout ça. Donc, il y a vraiment une dimension messianique au livre de Michée. C'est bon? Si on parle de thème, écoutez, depuis qu'on est dans les livres prophétiques, j'ai l'impression qu'on dit un peu le même thème à toutes les semaines, puis qu'on essaie juste de le formuler un petit peu différemment. Mais c'est quand même ça, c'est beaucoup le jugement. Alors, encore une fois, ça va être la certitude d'un jugement qui est annoncé par le prophète de l'Éternel si le peuple de Dieu ne se repent pas. Il n'y a pas beaucoup de marge pour la repentance, le jugement est annoncé, et il y a aussi une certitude de grâce, de pardon, de rétablissement. Alors, on a vraiment les deux qui nous sont annoncés. Jugement en réponse au péché du royaume du nord, du royaume du sud, et rétablissement pour celui qui se repent, d'accord? Et ça aussi, c'est une certitude. On va le voir ensemble par la structure du livre. La date de rédaction, environ 700 avant Jésus-Christ, comme je le mentionnais tout à l'heure, pendant l'Empire assyrien, alors que l'Empire assyrien est vraiment en train de monter en puissance à ce moment-là. Concernant l'auteur, bien, on n'a pas beaucoup d'autres informations que celles qu'on a dans le livre. Par contre, on apprend de quelle région il vient. Alors, il venait de la ville de Moréchette, qui était une petite ville, une trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem. D'accord? Cette région-là est encore habitée aujourd'hui. Il y a un équivalent à notre époque. C'était sur on dirait un buton, là. D'accord? C'était un petit mont, mais qui était quand même 1000 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et donc, ça, c'est la région de laquelle Michée venait. Alors, au niveau de la structure du livre, là, il y a quelque chose d'intéressant à retenir, puis qui peut vous permettre éventuellement de retenir justement la structure du livre lorsque vous reviendrez à ce livre-là. Le livre de Michée est construit en trois cycles, d'accord? Ce sont des complaintes, ce sont des lamentations, et on peut les reconnaître le début de chacun des cycles et la fin de chacun de ces cycles-là. Les cycles, si vous regardez un petit peu plus bas, là, les trois cycles, on trouve des éléments communs. Premièrement, il y a cette invitation à écouter le prophète de l'Éternel. Alors, si vous regardez au verset 2, après la brève introduction du verset 1, je suis dans Michée 1, 2. Écoutez, vous, tout peuple. D'accord? Ensuite, si vous allez au chapitre 3, tournez avec moi au chapitre 3, verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob. Et je m'en vais au chapitre 6. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ce sont mes trois cycles qui commencent, d'accord? On pourrait essayer de le structurer autrement par le contenu qu'il y a dans le livre. Il y a une grande portion d'annonces de bénédiction. On pourrait en faire une section. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais par le genre littéraire, c'est beaucoup plus logique de respecter ces trois boucles-là, d'accord? Et ça nous aide à comprendre comment est-ce que c'est construit, ça nous aide à comprendre le texte lorsqu'on le lit. Donc, les trois boucles commencent avec « écouter ». Ensuite, il y a une dénonciation des péchés, une annonce de jugement. D'accord? Les péchés sont déclarés, le jugement est annoncé. Et enfin, les trois cycles se terminent avec un mot d'espoir, de pardon et de rétablissement. Les trois. Donc, ça fait trois boucles. D'accord? On va aller voir ensemble, je vous ai montré comment les boucles commençaient, avec l'invitation à écouter le prophète de l'Éternel. Maintenant, regardez les promesses de bénédiction. Ils sont pas tout à fait systématiques, là, mais on va les voir quand même. Alors, si vous allez, vous les avez d'afficher dans vos notes, là, mais Michée 2, 12 et 13. Donc, ce cycle-là commence à Michée 1, 2. Et se termine ici, il se termine avec une promesse de rétablissement. « Je te rassemblerai tout entier au Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » En fait, lorsqu'il passe au verset 12, là, ça arrive abruptement. D'accord? Michée invite le peuple à écouter, il annonce le jugement sur le royaume du nord, il annonce le jugement sur le royaume du sud, dénonce les péchés, annonce les conséquences, tout ça. On sent le cœur de Dieu, on va aller voir des versets ensemble où on voit vraiment le cœur de Dieu à travers tout ça. Et puis on arrive au verset 12, c'est comme si on fait un saut dans le temps. Boum, il y a une promesse de rétablissement. D'accord? Deuxième cycle, alors commence avec le chapitre 3, verset 1. Je dis, écoutez, chef de Jacob. Et puis allez, cette fois-ci, il y a deux fois des promesses de rétablissement. Alors, Michée 4, 6 et 7. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel règnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Alors, on a une promesse de rétablissement ici. Après les jugements de Dieu, il dit « Ceux que j'ai blessés, je vais les rétablir. » D'accord? Les blessures infligées par Dieu, ce sont des jugements de l'Éternel. Ça va? Ensuite de ça, au verset chapitre 5, verset 6 et 7, « Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elle ne compte pas sur l'homme, elle ne dépend pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire et personne ne délivre. » Alors, il annonce la victoire, la puissance qui va revenir à Israël. Et puis, on s'en va avec le dernier cycle qui commence donc, chapitre 6, verset 1. « Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes. » Alors, c'est une invitation à écouter le prophète encore une fois et ça va se résorber. Ce cycle-là va se compléter à la fin complètement au verset 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. » Vous pourrez corriger, là, ça va jusqu'au verset 20 dans les notes. Alors, vous voyez, il y a trois cycles, il y a trois boucles qui se passent. Et lorsqu'on est conscient de ça, puis on prend le temps de le lire, on comprend un petit peu mieux le propos de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de reprocher? Quelle est la ligne, quel est l'argument qu'il est en train de développer? Si vous regardez en bas dans la suite, là, lorsqu'on illustre la structure, donc vous avez la sentence de Dieu sur Israël et sur Juda, qui va être le premier cycle. Il n'y a personne à la technique. Deux, les reproches adressés au chef d'Israël. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, Michée, souvent on l'a appelé le prophète des pauvres. Je dirais le prophète de la classe moyenne. Mais celui qui défend donc la classe moyenne contre ceux qui abusent. Ça, c'est le deuxième cycle. On va aller lire quelques versets ensemble. Et puis le troisième, l'Éternel plaide avec son peuple. Le troisième cycle, qui sont les chapitres 6 et 7. Accusation de Dieu, ce que Dieu demande, le verdict de Dieu. Voyez-vous, on passe toujours à travers les mêmes éléments essentiellement. Quelques mots sur le contexte historique avant d'aller ensemble regarder le message. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ça va? Vous pouvez prendre ça en note juste au début. Moi, je vous donne un truc, là. Au début du livre de Michée dans vos Bibles, si vous annotez, là, écrivez au plomb trois cycles, puis faites juste marquer les chapitres. La prochaine fois que vous allez lire Michée, prenez le temps de lire un cycle à la fois. Là. Mettons que vous faites votre culte, là, vous lisez le premier cycle au complet, puis vous cherchez juste à reconnaître ce qu'il y a dedans. Ça va vous aider parce que là, je vais vous montrer dans quelques minutes certains versets où on voit le cœur de Dieu. Puis on voit vraiment l'amour de Dieu. Mais si je ne suis pas conscient de la structure du livre, je me promène entre des versets qui annoncent la colère de Dieu, qui annoncent les châtiments de Dieu. Oups, des fois, je vois une petite touche positive, mais d'où c'est que ça vient, cette affaire-là? Je comprends pas pourquoi est-ce que ça vient d'apparaître là. Si je comprends comment le livre est structuré, j'arrive à suivre l'idée de Dieu, la pensée de Dieu à travers ça. D'accord? Ce que Dieu est en train de dire à travers son serviteur. C'est pas moi, non? Oui. OK. contexte historique. Juste voir s'il y a des éléments que je n'ai pas mentionnés. David, est-ce que ce serait possible d'aller chercher François? Il doit être au café, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui est allé chercher, merci. Pardon? Ça peut être ma batterie. Peut-être simplement vous mentionner, quand on lit les livres prophétiques, on peut avoir l'impression dans un premier temps que Dieu a abandonné son peuple. D'accord? Et on va le voir ici, il y a vraiment un moment où Dieu se retire et il dit, vous n'entendrez plus ma voix. Vous ne m'entendrez plus du tout. Et donc, ça peut nous donner l'impression que l'Éternel a abandonné son peuple, mais il revient toujours avec cette promesse de rétablissement. Alors, regardons quelques versets pour voir un peu le cœur de Dieu à travers tout ça. Si vous allez avec moi au chapitre 1, je vais aller au verset 6, d'accord? Juste pour que vous compreniez mieux le verset 8. C'est le verset 8 qui m'intéresse, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est le prophète qui parle, c'est Dieu qui parle, on ne sait pas. Et ça me semble vraiment être une métaphore où Dieu est en train de parler de lui. Alors, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur, puis il dit, « Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. » Je suis dans Michée 1, 6. « Je précipiterai ces pierres. » Monsieur Fournier, ah. Et je ravagerai toutes ces idoles. Recueillies par le salaire de la prostitution, elles deviendront un salaire de prostitution. Il y a des images qui semblent complexes là, dans une première lecture, là, mais ce que Dieu est en train de dire ici, c'est vous êtes allés vers des idoles. Ces idoles-là ont rapporté le salaire que des idoles peuvent vous donner. Vous êtes prostituées, vous êtes allées vers un autre amour. Bien, je vais détruire ces idoles-là et vous vivrez du salaire que ces idoles-là peuvent vous rapporter. Ce sont des dieux vains, ils n'existent pas. Donc, allez vers eux, je vais les détruire. Vous vivrez de ce que ça rapporte. Vous verrez ce que ça vous a rapporté d'aller vers des idoles, d'accord? On arrive au verset 8. Et donc, jusque-là, c'est comme, ouf, c'est dur. Dieu est en colère, c'est justifié, c'est pas ça la question, mais c'est dur. J'arrive au verset 8. « C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu, je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche, car sa plaie est douloureuse, elle s'étend jusqu'à Juda, elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. » Et donc là, vous avez une litanie de l'Éternel. C'est Dieu qui est en train de se lamenter, qui est en train de pleurer lui-même sur son peuple, d'accord? Et ça, c'est comment Dieu nous regarde. Moi, cette semaine, j'étais en train de lire ça, mon cœur était brisé, honnêtement. Verset 6, quand j'ai vu la sévérité de Dieu contre les idoles, contre mes propres péchés, puis là, je suis arrivé là, puis j'entendais le cœur de Dieu. Dieu qui pleure sur mes péchés quand moi, je m'éloigne de lui, d'accord? Et donc, si on lit les livres prophétiques puis qu'on les lit pas attentivement, on va se buter à la colère, au châtiment de Dieu, tout ça. Puis ça peut nous donner une image d'un Dieu qui est très très dur. Mais en réalité, je l'ai dit puis je vous le répète, les livres prophétiques c'est là qu'on va écouter le cœur de Dieu. Et si on les lit attentivement, on trouve un amoureux qui est passionnément en amour. On trouve un père qui souffre lorsque ses enfants s'éloignent. On entend vraiment quelqu'un qui aime énormément. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'avec le cœur mauvais que nous... Un, deux. Je pense auquel? Lui? OK. Avec le cœur mauvais que nous avons... Nous, on pourrait être tentés d'accueillir nos enfants s'ils reviennent à la maison sans leur demander d'assumer les conséquences de tout le mal qu'ils ont fait. D'accord? Alors, on va voir ça régulièrement. On va penser à l'image un peu le farfelu, mais je pense à la mère des dans Lucky Luke, les Dalton, la mère des Dalton, tu sais. Elle aime avec un cœur de mère. Elle va toujours aimer ses enfants. C'est des petits monstres, mais elle va les aimer. Bon, ben, c'est notre cœur déchu qui pourrait dire, écoutez, je comprends que mon enfant fait ça, mais j'ai pas besoin qu'il assume le mal qu'il a fait, qu'il assume les conséquences de ce qu'il a fait. C'est mon enfant. Ce que vous avez avec Dieu, vous avez le Père de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les êtres humains, vous comprenez? Et donc, lui, il est conscient de tout le mal que les êtres humains font. Et ça, c'est ce qu'on entend aussi dans les livres prophétiques. Dieu qui est vraiment en colère, qui est vraiment scandalisé, outré par le mal que les hommes font. On va regarder quelques versets qui nous montrent ça. Mais en même temps, il y a ce Père-là qui est vraiment aimant, cet amoureux-là qui est passionné. Et c'est ça qu'on entend ici dans ces versets-là. Et je suis à peu près sûr, plusieurs d'entre vous, si vous l'avez lu cette semaine, vous avez traversé Michée, c'est comme ces tons-là, peut-être qu'ils ne se rendaient pas à votre oreille, parce que ce que vous voyez, c'était la colère de Dieu. Au chapitre 2, encore une fois, lorsqu'on dit que ce que Dieu désire, c'est premièrement ce qui se passe dans le cœur de l'être humain, et que notre cœur lui soit consacré, bien, dans le langage de Michée, Michée revient souvent au cœur. Alors, verset 1, Michée 2, 1 et 2. « Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en main. Ils convoitent des champs. » Alors là, l'image qui nous est donnée ici, c'est des gens qui consacrent leur temps à penser à faire le mal. Et moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est à quoi est-ce que mon esprit est consacré pendant la semaine. Quand je suis couché dans mon lit, puis je suis pas sur le mode devoir, puis c'est le temps des rêveries, parce que je suis en train de m'endormir ou je me réveille le matin, puis je suis juste comme en train de me laisser aller à mes pensées. De quoi est-ce que je rêve? Qu'est-ce que je médite? Est-ce que je médite la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, ou je tombe dans mes vieilles amertumes, dans mes vieilles convoitises, dans mes vices? Et c'est de ça qu'il est en train de parler ici, d'accord? Donc, on parle vraiment d'une religion qui est vraiment dans le cœur, qui est sincère, qui cherche l'intégrité de celui qui marche avec l'Éternel. Pour illustrer comment est-ce que Dieu... Attendez un petit peu, je veux juste pas manquer quelque chose ici. OK, alors au chapitre 3, ce que Dieu reproche au chef d'Israël, il dit, je dis, écoute, chef de Jacob et prince de la maison de Juda. Et là, c'est vraiment intéressant ce qu'il va dire ici. Il dit, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Et donc, j'étais en train de réfléchir à ça cette semaine, puis je me disais, attends un peu là, est-ce que Dieu est en train d'induire que les riches, puis les princes, puis les chefs sont automatiquement des gens plus brillants que les gens du peuple? Non. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est votre responsabilité. Vous êtes là pour administrer le peuple. Moi, comme chef de mon foyer, comme papa à la maison, il n'y a rien qui dit que mon QI est plus élevé que celui même de mes enfants. Ouais, ils sont un peu plus jeunes, ils ont moins d'expérience dans la vie. Mais c'est moi qui ai la responsabilité de discerner ce qui est bien dans ma maison, d'avoir ce discernement-là pour exercer la justice dans la maison, pour pouvoir conduire dans la justice. C'est pas nécessairement que je suis plus doué, plus intelligent, mais j'ai cette responsabilité et ça me demande de me comporter autrement pour discerner ce qui est bien, ce qui est juste. C'est la même chose dans l'Église, c'est la même chose dans toutes nos positions d'autorité. Vous êtes au travail, vous avez un poste, vous êtes responsable d'un département, vous êtes appelé, vous êtes censé être celui et celle qui discerne ce qui est juste, ce qui est droit pour les employés, tout ça. C'est votre poste, c'est votre fonction de faire ça. Est-ce que nécessairement vous êtes plus brillant que les employés qui sont sous votre responsabilité? Non, pas nécessairement. Mais ça va avec la responsabilité. D'accord? Et donc, ce que Dieu est en train de dire ici, il dit, écoutez, chef de Jacob, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître la justice? Il dit, c'est vous qui avez le pouvoir de l'exercer, c'est vous qui devez la connaître. C'est vous qui devez la discerner. Mais encore une fois, il s'en va au problème de l'attitude de cœur et il dit, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. C'est ça votre problème. C'est que vous haïssez le bien, en fin de compte, et vous aimez le mal. Et puis là, il va dénoncer le fait qu'ils abusent, qu'ils profitent, qu'ils usurpent. Ils se servent de leur pouvoir, en fin de compte, pour servir leurs propres appétits, leurs propres désirs charnels. L'autre élément que je voulais souligner un petit peu avant. Non, OK, je vais continuer. Et donc là, ce que Dieu va faire, c'est que Dieu va leur dire, vous êtes allés vers d'autres dieux, vous avez dit un peu plus tôt, il dit, le peuple dit au prophète, ne prophétise pas de malheur, ne nous dis pas du malheur, ne nous annonce pas du mal, ça on ne veut pas l'entendre. C'est pas comme ça qu'est l'Éternel. Je pense que c'est au verset 6, verset 6 du chapitre 2. Tiens, on va le lire. Michée 2, 6, il dit, ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? Alors, ce qui revient, c'est cette idée que les prophètes sont interdits de dire la vérité. Et lorsqu'on arrive au chapitre 3, verset 4, voici ce que l'Éternel dit. « Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. » Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre. Alors, si vous les nourrissez, ils vont vous annoncer, nourrissez-les, puis ils vous annoncent de bons oracles. D'accord? Tu pouvais acheter les prophètes sans aucun problème. Et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Alors là, si tu les nourris pas, ils vont t'annoncer de mauvais oracles. D'accord? Fait qu'ils vont s'adapter, ça dépendamment qui les nourrit. Ils ne vont pas mordre la main qui les nourrit, ça c'est sûr. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de vision. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. C'était un acte d'humiliation, un acte d'humilité de se couvrir la barbe pour un homme à cette époque-là. Car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Alors là, c'est le prophète Michée qui reprend la parole. Puis il dit, voici, vous avez acheté les prophètes, vous les avez fait taire. Plusieurs se sont prostitués, ils ont accepté de dire ce que vous vouliez entendre. L'Éternel ne leur parlera plus. Ils vont être dans la confusion. Mais moi qui ai marché avec l'Éternel, moi, j'ai la force qui est avec moi. J'ai l'Esprit de Dieu qui est avec moi et je vais annoncer la justice de Dieu qui s'en vient sur vous. Et donc, Michée se place en faux contre les mauvais chefs, contre les mauvais prophètes et dit, voici, moi, je veux marcher avec l'Éternel, je vais annoncer la justice. Et encore là, c'est notre rôle. Je vous le dis depuis le début qu'on est dans les livres prophétiques, c'est notre rôle de faire ça. D'aller vers les gens, de le faire avec grâce, de le faire avec douceur, mais d'aller vers les gens puis leur dire « L'Éternel existe, laisse-moi t'annoncer la justice de Dieu. » Puis quand les gens disent « Ouais, mais Dieu n'existe pas, regarde tout le mal qu'il y a sur la terre. » Attends, ça s'en vient, le jugement de l'Éternel s'en vient. Et tout le mal va être châtié. Dans quel camp est-ce que toi tu te trouves? Où est-ce que toi tu es? Dieu ne va pas rester silencieux jusqu'à la fin, un jugement éternel s'en vient. Toi, tu me dis « Dieu n'existe pas parce que Dieu permet le mal. » Plus tard, tu vas me dire, j'aurais aimé que Dieu n'existe pas parce qu'il va punir éternellement le mal. Mais ce Dieu-là, tu ne veux pas en entendre parler parce que là, tu le trouves trop dur. Un jour, la justice s'en vient. C'est notre rôle d'annoncer ça. D'accord? Lorsqu'on annonce l'Évangile, ça doit faire partie éventuellement du message de l'Évangile qu'on amène aux gens. Alors, je reviens dans mes notes. On va regarder ensemble quelques éléments du message. Je voulais juste vous montrer à quel point le livre de Michée peut devenir personnel. Le langage n'est pas si éloigné que ça. Ce sont des choses qui peuvent venir nous rejoindre dans notre cœur à nous, parce qu'on voit vraiment l'amour de Dieu, la passion de Dieu pour son peuple. On voit combien Dieu haït le mal, combien Dieu examine ce qui se passe dans nos cœurs. Ce qu'il veut, c'est que nous aimions le bien, la justice, et que nous haïssions le mal. D'accord? Maintenant, regardons ensemble quelques éléments du message de Michée. Que vous avez au bas de la page 3, bien ça je les ai pas mal mentionnés, là, les crimes, les péchés que Dieu va dénoncer tant chez Israël, le royaume du Nord, que chez le royaume du Sud. Les crimes qu'il va dénoncer, bien ce sont l'idolâtrie, la convoitise, la violence lorsque les riches vont aller voler les pauvres, le rejet de la parole de Dieu parce qu'ils ne veulent pas entendre les prophètes de Dieu parler. Les prophètes les chefs qui eux-mêmes vont voler, les prophètes qui vont égarer le peuple, qui vont prophétiser selon qui leur paye un salaire, plutôt que prophétiser et annoncer la parole de l'Éternel. Et puis évidemment, mais ils se font à croire avec ces prophètes-là. Ils payent ces prophètes-là pour que les prophètes leur disent « Faites-vous-en pas, le mal ne vous atteindra pas. » Michée va voir de son vivant, si je ne me trompe pas, la déportation du royaume du Nord. Samarie va être enlevée et donc ils vont le voir lui-même. Maintenant, l'élément que je voudrais souligner au niveau du message, l'autre élément, puis ça va nous amener tranquillement vers la dimension messianique de Michée, mais c'est toute cette promesse-là qu'il va y avoir un reste d'Israël qui va être sauvé. Puis au fur et à mesure que les promesses du reste avancent dans le livre, on se rend compte que ce reste-là, c'est plus seulement le reste d'Israël, mais ce sont aussi les nations environnantes, les nations de toute la terre qui vont venir vers le Dieu d'Israël. D'accord? Alors, je suis au haut de la page 2. D'après vous, est-ce que l'histoire s'arrête là? Non, Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Et donc, il annonce qu'il va y avoir d'une part un reste, d'autre part un roi qui va être là éternellement, éventuellement aussi. Michée 2, 12 et 13, on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on a commencé à regarder les trois cycles. « Je te rassemblerai tout entier au Jacob, je rassemblerai les restes d'Israël, je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Alors on retourne vers cette promesse dans l'Ancien Testament que Dieu allait toujours marcher avec son peuple. D'accord? On retourne dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, c'est quoi la promesse que l'Éternel a faite? Je vais marcher à ta tête, je vais être à la tête du peuple. Dans le livre de Michée, il est annoncé que Dieu ne parlera plus, Dieu va faire silence. Mais après ça, il est annoncé que l'Éternel va revenir et il va marcher à la tête du peuple. Donc, il va y avoir un reste, il va y avoir un rétablissement. De même, nous voyons plus loin que non seulement un reste d'Israël sera sauvé, mais ainsi toutes les nations viendront, aussi toutes les nations viendront pour adorer Dieu. Alors, si vous regardez au chapitre 4, les versets 1 et 2, « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront, des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Donc, oui, vas-y, Stéphane. Oui. Je pourrais pas te dire. Ce que j'ai lu, OK, la question de Stéphane, c'est est-ce que c'est Michée qui cite Ésaïe ou Ésaïe qui cite Michée? Ce que j'ai lu dans les commentateurs auraient plutôt tendance à dire que c'est deux prophètes qui citent l'Éternel. OK? Et donc, c'est tout à fait possible que Dieu ait donné la même prophétie deux fois. Parce que ce sont deux contemporains, puis on n'a pas d'indice que les deux gars se sont lus. Mais lorsque je mentionnais au début du cours qu'il y a certains passages de Michée qui ressemblent à Ésaïe. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, ce que j'ai lu dans les commentaires, ça ressemble plus à ça qu'une citation. Ce qui n'est pas difficile à croire, là. Je veux dire, si Dieu a parlé une fois, il peut parler deux fois. Là. Mais c'est ça, j'ai pas lu d'indice qui nous permettrait de dire qu'un cite l'autre. Mais c'est ça. Où je m'en allais avec ça, c'est que donc dans l'Ancien Testament, on voit clairement apparaître cette idée que les nations de la terre font partie du projet de Dieu. D'accord? Et qu'Israël, Israël devait être un témoignage, Israël n'a pas été un témoignage, puis Dieu annonce qu'un jour les nations de la terre vont venir vers l'Éternel. Et dans ce passage-là, oubliez un instant le Nouveau Testament, on va y venir, mais oubliez comment ça s'accomplit dans le Nouveau Testament à travers Christ, juste un instant, puis faites juste regarder le passage qu'il dit. Au verset, chapitre 4, verset 1b, et que les peuples y afflueront, donc à la montagne de l'Éternel, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Ce que Dieu est en train d'annoncer, c'est que non seulement après qu'il ait jugé Israël, il va éventuellement restaurer un reste d'Israël, mais un jour, la gloire passée va être oubliée, même la gloire du temps de David. D'accord? Du temps du roi Salomon, ça va être un pâle, ça va vraiment être complètement oublié en comparaison, absolument rien en comparaison de la gloire qui est à venir, parce que du temps même de Salomon, qu'est-ce qu'on a eu de plus grand du temps de Salomon? Sa sagesse était connue dans toute la région. Il y avait des rois qui venaient pour entendre sa sagesse, pour voir sa richesse, tout cela. Mais est-ce que vraiment on s'était rendu à un point où des peuples environnants montaient à la maison de l'Éternel, montaient à Jérusalem pour pouvoir aller adorer l'Éternel puis être instruits à marcher dans les voies de l'Éternel? On ne s'est pas rendu là. Tout ça, c'est annoncé pour plus tard. D'accord? On continue dans les notes. « Or, cette parole est déjà accomplie. » Et on va aller voir ensemble dans Romains 10. « Cette parole est déjà accomplie. » Et Paul nous le mentionne dans Romains 10, les versets 12 et 13. Alors, vous pouvez tourner avec moi dans Romains. On va juste aller le placer dans son contexte. Paul est en train d'adresser toute la question du salut d'Israël, qu'est-ce qui arrive avec Israël, tout ça, et puis il dit, bon, mais est-ce que ça a servi à rien, tout ça. Il parle de leur incrédulité, puis lorsqu'on arrive au verset 12 et 13, oui, c'est ça, Romains 10, 12 et 13, « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc, ce que Paul développe ici dans Romains, c'est toute cette idée que nous, maintenant, on fait partie du peuple de l'Éternel. Cette prophétie-là de Michée est déjà en train de s'accomplir. Elle est déjà en train de se réaliser. En tout ou en partie, dépendamment de notre compréhension de l'eschatologie, mais elle est déjà en train de s'accomplir, ça c'est déjà clair, d'accord? Puisque toutes les nations de l'Éternel, toutes les nations du monde sont en train de se tourner vers qui? Vers le Dieu de Jérusalem, en la personne de son Fils, en la personne de Christ. Ce reste d'Israël, aussi composé des gens de toutes nations, sera gouverné par un même chef. Et nous voyons cela au chapitre 5, versets 1 à 3. Alors revenez dans Michée. Qui est cité dans Matthieu, d'accord? Alors, dans Matthieu 2, Michée est cité, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité. C'est pourquoi il livrera jusqu'au temps où enfantera, il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. » Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on a déjà cette prophétie-là dans l'Ancien Testament, qu'un jour, toutes les nations de la terre vont être attirées vers l'Éternel. Et je veux dire, tant qu'à moi, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Christ juste au verset 1. Qu'est-ce que vous tirez du verset 1 sur la personne de Christ, sur le Messie? Lisez le verset 1. Est-ce qu'il n'y a pas cette divinité qui apparaît là? Celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. D'accord? De toi va sortir celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Cet enfant-là qui va naître préexistait avant sa naissance. Et donc, ce fils-là et quelqu'un d'autre, il était là aux jours d'éternité. C'est pas juste un homme qui va venir. C'est un Dieu qui va venir, c'est l'Éternel qui va marcher au milieu d'Israël. Juste plus tôt, on l'avait vu au verset, à la fin du chapitre 2. Chapitre 2, verset 13, « Celui qui marchera la brèche, celui qui fera la brèche montera devant eux, ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront, le roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. » Ben là, c'est pas juste qu'il y a un roi qui est à leur tête puis qu'il y a l'Éternel qui accompagne ce roi-là, puisque ce roi-là nous est dit au chapitre 5, verset 1, « Son origine remonte aux temps anciens, aux jours d'éternité. » C'est l'Éternel qui est là, d'accord? Pourtant, il naît d'une femme. Et donc, c'est Dieu fait homme qui va naître d'une femme qui est là. C'est vraiment un super beau passage. Et ce qu'on comprend, c'est que ce qu'on comprend lorsqu'on lit le livre de Michée, c'est que il n'y a pas de remède à la méchanceté du cœur humain, sinon la rédemption que Dieu va venir en faire. Là, dans le passage ici, j'ai pas la notion de sacrifice de la part de Dieu qui va venir payer pour nos péchés, tout ça. Mais on voit un rédempteur qui apparaît ici. On voit un sauveur qui vient ici. Parce que tout ce que Dieu fait dans le livre de Michée, il dit, regardez Israël, comment est-ce que vous êtes. Vous êtes tournés vers d'autres dieux. Regardez qui vous êtes. J'ai couru après vous, je vous ai aimé, mais vos cœurs sont mauvais. Et puis là, il commence à annoncer un rétablissement, un reste qui va être sauvé. Mais lorsqu'on est attentif en lisant cela, on comprend que, oh, attends un peu, quand est-ce que ça va se produire? Ça va être énorme. Lorsque ça va se produire, il va y avoir des gens de tous les peuples de la terre qui vont venir vers l'Éternel. Or, pour nous qui vivons après la venue de Christ, on comprend que tout cela s'est accompli en Jésus-Christ. Christ est celui qui était là dès les temps anciens, dès les jours d'éternité, qui est né d'une femme. Et c'est vers lui que les hommes de tous les peuples de la terre se tournent pour aller vers l'Éternel puis dire « Enseigne-nous, enseigne-nous ». C'est lui, le nouveau Moïse, qui nous enseigne la voie de l'Éternel. Moïse avait dit « Il y a un autre Moïse qui s'en vient ». C'est Jésus, c'est lui qui a enseigné. Il enseignait. Qu'est-ce que les gens disaient lorsqu'ils entendaient Jésus enseigner? Ils disaient « Boy, est-ce qu'on a déjà entendu un prophète enseigner comme ça? Ces paroles viennent de Dieu. C'est ce nouveau Moïse-là qui enseigne la voie de l'Éternel au peuple de toute la terre ». Alors, c'est vraiment intéressant lorsqu'on lit le livre, puis que je place ça dans une bonne compréhension de toutes les Écritures, je dis, OK, Dieu est vraiment en train de dire, il n'y a pas de remède pour le mal qui est dans le cœur d'Israël, il va falloir que l'Éternel vienne à son secours, puis qu'il vienne le secourir. Et c'est lorsque l'Éternel va être là que ça va s'accomplir. Nous, on arrive dans le Nouveau Testament, puis on dit, waouh, tout ça s'accomplit dans la personne de Christ. Voici un autre élément que je voulais mentionner. Alors évidemment, on se rend jusqu'à la fin du livre. Tout cela constitue une démonstration de la grâce de Dieu. Michée termine son livre en décrivant cette grâce tellement grande pour son peuple. Et on va les lire enfin ensemble, encore une fois, les trois derniers versets. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Et nous sommes, nous qui allons à la maison de l'Éternel, des fils et des filles d'Abraham. On fait partie de cette promesse-là. Avez-vous des questions? J'ai pas mal fini mon survol, moi. Questions, des commentaires? Pas de questions? Qu'est-ce qui vous touche dans tout ça, dans ce qu'on a vu dans Michée ensemble ce matin? Oui. C'est ça. Alors, il y a les deux volets. Il y a le jugement de Dieu, puis le pardon de Dieu. Malgré le fait que dans ce livre-là, tout l'appel à la repentance, c'est pas... En fait, on ne voit pas le moment où Israël se repent. On voit le jugement, puis on voit la grâce de Dieu. C'est implicite, là. C'est implicite, mais on ne le voit pas le moment où Israël se repent. D'autres choses? D'autres commentaires sur le livre? Est-ce que vous seriez en mesure, à partir du livre de Michée, d'annoncer l'Évangile à un juif, par exemple, de le conduire vers Christ? Est-ce que ce ne serait pas un bon livre pour le faire? On le fait à partir d'Ésaïe, on le fait dans les psaumes, tout ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se servir du livre de Michée pour annoncer l'Évangile à un juif? Ou pour annoncer l'Évangile à quelqu'un qui dit « Oui, mais attends un peu, il y a plein de religions, il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les musulmans, tout ça. » Non, regarde, je vais te montrer, tout se tient. Tout ça se tient. Je suis dans l'Ancien Testament, puis regarde comment est-ce que ça s'accomplit, ça. Regarde qui est ce sauveur-là. Lorsqu'on a des discussions, par exemple, lorsqu'on a des discussions avec des Juifs ou avec des gens qui veulent pas reconnaître la divinité de Christ, je peux partir juste avec le livre de Michée puis je vais pouvoir annoncer l'Évangile au complet. Alors, par exemple, lorsque je vous mentionne dans des prédications que je veux être capable d'apprendre à présenter l'Évangile à partir de toutes les Écritures, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Je pourrais simplement, quelqu'un qui me dit, « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on doit croire à ce livre-là? Pourquoi est-ce qu'on doit lui faire confiance à ce livre-là? » Ben, une des raisons pour lesquelles on devrait le faire, c'est qu'il est surnaturel. Il est surnaturel parce qu'il y a des prophéties qui ont été faites des centaines, voire des milliers d'années auparavant, qui s'accomplissent plus tard d'une manière incroyable. Puis là, je peux juste partir avec cette idée de dire, est-ce que tu savais que les chrétiens croient que Jésus est Dieu? Que Jésus, c'est un être humain, mais en même temps qu'il est Dieu. Puis je vais aller te montrer ça dans l'Ancien Testament. Je vais aller te montrer en quoi la Bible est surnaturelle. Je vais aller te montrer ça dans l'Ancien Testament. Puis j'explique un peu le contexte. Je suis dans l'Ancien Testament, je suis juste avec les Juifs. C'est bien des années avant la venue de Jésus, 700 ans avant la venue de Jésus au moins. Et donc, je suis juste avec les Juifs à ce moment-là. Il n'y a pas d'idée que Dieu pourrait être fait homme, Dieu pourrait s'incarner, devenir un homme. C'est pas présent du tout dans l'idée des Juifs. Mais là, j'arrive ici avec cette petite prophétie-là qui est incroyable. Puis là, je m'en vais simplement avec ma prophétie dans Michée 5.1. Et puis, je lui demande tout simplement de m'expliquer, je lui donne un petit peu mon contexte, qu'est-ce qui se passe. Ce sont des jugements de Dieu, puis en même temps, des promesses de bénédiction de la part de Dieu. Puis là, j'arrive ici dans ce verset-là, Michée 5.1. Explique-moi comment est-ce que tu comprends ça, de qui il parle. Puis je dis, n'importe qui va prendre le temps de le lire tranquillement, même s'il ne sait pas c'est quoi Bethléem, Ephrata, je donne un peu de contexte. Il arrive devant une espèce de concept bizarre. Celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours d'éternité, c'est qui ce personnage-là qui va venir là? D'accord? C'est qui va naître d'une femme? Ben là, j'ai un personnage qui est vraiment étrange. Puis je m'en vais dans Matthieu. Après ça, je m'en vais dans Matthieu lorsque Matthieu cite ce passage-là et je lui montre tout simplement, c'est Jésus, c'est ce personnage-là qui est là. Et donc, je viens de faire une pierre deux coups. Je viens de prendre le temps de lui montrer, écoute, tu as quelque chose d'énigmatique qui est ici, mais qui s'est accompli dans une personne extraordinaire qui est Jésus 700 ans plus tard. Et il y a juste en Jésus qu'on arrive à trouver quelqu'un qui va porter en lui-même toute cette grâce-là de la divinité à travers ses actions, à travers ce qu'il a dit, à travers ce qu'il a fait, et puis en même temps toute cette personne-là sainte qui est Dieu. Et donc, je peux voir apparaître Jésus à ce moment-là. Alors, voyez-vous, je peux partir de là, puis je peux m'en aller tranquillement vers l'Évangile. Ensuite de ça, je peux aller lire tout simplement le passage où il est annoncé que des gens de toutes les nations de la terre vont venir vers l'Éternel. Puis lui dire, regarde, ce temps-là, c'est maintenant. Depuis 2000 ans, il y a des gens de toutes les nations de la terre qui se tournent vers le Dieu d'Israël dans la personne de Jésus-Christ. Jésus est un Juif. C'est celui qui est venu accomplir tout cela. Et il y a des gens de toutes les nations de la terre qui se tournent vers ce Dieu-là. Ce Dieu-là est en train de t'appeler toi, il est en train de te chercher toi, parce qu'il veut te faire grâce. Je m'en vais à la toute fin du livre de Michée, complètement à la fin, les derniers versets. « Il aura compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Même si tu n'es pas un Juif, c'est ce que Dieu veut faire avec toi, il veut t'accorder cette grâce-là. Alors, voyez-vous, j'avais une discussion avec une amie dernièrement, puis c'est ça, un des gros éléments de la discussion, c'était ça, c'est est-ce que c'est inspiré de Dieu? Comment je fais pour savoir que c'est inspiré de Dieu? Puis c'est drôle parce que la personne, elle m'a posé la question la première fois qu'on s'est assis. La personne, elle me dit, je comprends pas l'Évangile. Je comprends pas l'Évangile. Et je dis, regarde, on va s'asseoir, puis on va regarder ça ensemble. Fait que c'est beau, on s'assoit, on commence. Une des premières questions qui sort, c'est oui, mais comment est-ce que je fais pour savoir que ce livre-là, c'est vraiment la parole de Dieu? Fait que je donne les arguments là, classiques sur comment est-ce que son inspiration s'est faite, comment le livre a été protégé, les prophéties, tout ça. Je m'en vais un peu dans tout ça, je lui montre quelques passages pour lui montrer ça. On termine cette rencontre-là, puis elle dit « Ok, c'est clair. C'est clair, c'est casé dans ma tête, c'est la parole de Dieu, c'est inspiré de Dieu. Ok. » On continue nos rencontres, parce qu'on parle d'une dizaine de rencontres. Ben, Isaïe 53, je suis allé chercher des textes prophétiques dans l'Ancien Testament, d'accord, dans les psaumes, des textes messianiques, tout ça, où on voit justement l'annonce très très tôt de quelque chose qui s'explique juste en Jésus, par exemple. Fait qu'on termine cette première rencontre-là, tout est beau, c'est la parole de Dieu. Là, dans les rencontres qui suivent, on s'en va un petit peu plus vers l'Évangile. Si on s'en va vers l'Évangile, on s'en va vers la question, est-ce que tu es pécheur? Ben là, si tu es pécheur, ça veut dire, comment est-ce que je vais savoir si c'est bien ou si c'est mal? Parce qu'à un moment donné, on a discuté d'un sujet assez cru, et la personne a dit, ben pour moi, c'est pas mal, ça. Bon, fait qu'on a toute une longue discussion pour montrer est-ce que c'est mal, blablabla, tout ça. C'est la parole de Dieu qui dit que c'est mal. Alors, environ, peut-être 6 ou 7 rencontres plus tard, la question revient sur la table. Oui, mais qu'est-ce qui me dit que c'est la parole de Dieu, cette affaire-là? C'est sûr que la question vient sur la table. Je viens d'y montrer que sa vie n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Hop, là, c'est plus sûr, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans une prophétie comme ça. Et là, j'ai une super opportunité. Le Saint-Esprit avait dirigé à travers d'autres discussions qui ont été vraiment géniales. Mais j'aurais pu tout simplement aller dans Michée. Avec les passages que je viens de voir avec vous, je m'en vais dans Michée, je m'en vais démontrer cette prophétie-là, mais à travers l'exposition de cette prophétie-là, je m'en vais vers l'Évangile. Parce que cette prophétie-là me parle du Messie, du Sauveur. Et j'ai toute la grâce est présente dans Michée, bien annoncée, le pardon qui va venir, la sainteté de Dieu, tout est là. Alors juste avec ça, je peux revenir sur, est-ce que c'est la parole de Dieu? Oui, regarde, on a une belle prophétie incroyable qui s'accomplit en Jésus. Et by the way, je vais te reprêcher l'Évangile encore une fois. Puis là, je vais t'inviter, toi, à répondre à cet appel-là qui est lancé à toutes les nations de la terre. Et c'est ça qu'on veut faire. Je comprends, là, peut-être vous dites, OK, c'est cute, Yannick, là. Je l'inviterai la prochaine fois à prendre un café avec toi, puis tu expliqueras ça. C'est pas si compliqué, là, ce que j'ai fait, là. Vous avez 3-4 passages en tête, puis vous pouvez faire exactement le même exercice, d'accord? Mais c'est ça qu'on parle lorsqu'on parle d'apprendre à être en mesure de prêcher la parole de Dieu, de prêcher l'Évangile n'importe où dans la parole de Dieu avec les questions des gens dans leur situation à eux, dans ce qu'eux autres sont en train de vivre. J'aurais pu faire la même chose si la personne m'avait dit, écoute, je vis une situation au travail, je suis frustré, je suis écœuré parce que mon boss abuse, ça n'a aucun bon sens ce qu'il est en train de faire, tout ça. Ah oui, ben justement, Dieu aussi haït ça. Puis là, je m'en vais dans Michée. Je m'en vais parler des chefs qui abusent. Puis comment est-ce que Dieu voit cela? Mais ça, ça va m'amener à parler des autres péchés aussi que Dieu déteste. Pour éventuellement aller gratter un de ses bobos à cette personne-là, un de ses péchés. Il y a celui de son boss, mais il y a son péché, ses péchés à elle aussi. Hop, là, je m'en vais traiter les autres péchés que Michée est en train de dénoncer ici, parce qu'ils sont multiples. D'où ça vient tous ces péchés-là? Du fait qu'on a des idoles dans nos vies. OK, on va aller voir ces idoles-là. Tous les cœurs humains ont des idoles. Je m'en retourne encore une fois vers l'Évangile. Voyez-vous? Alors, je peux encore une fois prêcher l'Évangile dans une circonstance où, ah, là, le problème, la première question, c'était, oh, mais mon boss au travail, il y a de l'abus, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis je termine avec l'Évangile. Est-ce que c'est clair? Ça fait du sens? Oui? Mettez ça en pratique. C'est ça qu'on veut apprendre. C'est ça qu'on veut apprendre, à prêcher l'Évangile n'importe où dans les Écritures. On va terminer avec un mot de prière. Écoutez, je ne sais pas qui avait lu et n'avait pas lu. Je ne vais pas vous demander de lever la main. Mais si vous n'avez pas lu Michée, vous avez vu que c'était difficile de suivre ce matin. D'accord? Alors, la semaine prochaine, on est dans Nahum. De grâce, lisez Nahum, 3 chapitres. Relisez-le le dimanche matin. Moi, personnellement, il faut que je lise 3-4 fois dans la semaine pour être capable d'enseigner, d'accord? Alors, lisez Nahum, soyez prêts dimanche matin prochain pour que vous puissiez suivre davantage le cours. Bien, Éternel, merci pour tes bontés. Seigneur, je veux te remercier infiniment pour ta grâce. Ta grâce, Seigneur, de nous aimer, de pardonner mes péchés, de bien vouloir, Seigneur, me considérer comme ton enfant, me considérer, Seigneur, comme ton serviteur. Quelle grâce incroyable. Et encore une fois, dans ce beau livre de Michée, on voit l'Évangile apparaître dans toute sa splendeur. On voit ton amour, ta patience, ta grâce, Seigneur, ta douceur. Je te prie, Père, je te prie de nous faire grandir. Nous faire grandir, premièrement, dans nos cœurs, dans notre appréciation de ton amour. Et nous faire grandir, Seigneur, dans notre connaissance de ta parole, afin que nous puissions annoncer l'Évangile. Annoncer l'Évangile en toutes circonstances, Seigneur. Montrer aux gens que ta parole se tient, qu'elle est merveilleuse. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.